Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire la parole de Dieu? Rapidement, si c'est possible. Puisque c'est comme ça que le Seigneur m'a mis à cœur de collaborer avec quelqu'un. Jean chapitre 9, du premier, puisqu'il reste un peu long, alors, du premier au 41e verset. C'est pas plus loin qu'on va parler, mais il faut que nous puissions lire ça. Je vais prendre peut-être quelques minutes seulement et nous allons prier. Il y a quelqu'un qui peut lire? Voilà. Merci, mon frère. Vous avez trouvé quand même. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 9, les versets 1er au verset 41. Je pense que tout le monde voit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Je vous ai dit, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 41. Et je vais m'arrêter à cette question.
Excusez-moi.
Et si nous sommes dans l'évangile des Jean, qui vient juste après les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Les trois évangiles s'appellent les évangiles synoptiques, qui parlent de la vie d'ensemble de Jésus. Et le dernier évangile, qui est l'évangile de Jean, parle de sa divinité. Et c'est de cet évangile que nous voulons parler. Jean est le disciple de Jésus, apôtre de Jésus, le dernier qui était mort dans l'île de Patmos. Jean a écrit 5 livres dans la Bible. La Bible, Biblia, qui veut dire l'ensemble des livres, des paroles inspirées de Dieu. Sur ces 5 livres qu'il a écrits, il a écrit Jean, Évangile de Jean. Il a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Il a écrit Apocalypse. Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe. Ça veut dire tout simplement la révélation. La révélation des choses passées, des choses présentes et des choses à venir. C'est ça que l'Apocalypse parle. L'évangile de Jean, le passage que nous avons, et nous pouvons lire du chapitre, du verset 1er jusqu'au 41, vu le temps, je prends seulement le premier verset, mais je vais parcourir presque tout, partie, cette portion des Écritures. Bien-aimés, il y a dans la vie des moments où tout semble perdu. Nous sommes d'accord? Des moments où nous nous posons des questions. Des moments où on n'arrive pas à comprendre finalement c'est quoi la vie. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler au cœur de quelqu'un, sinon à moi-même. Cet évangile des gens, l'évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que je vous annonce ce matin. Je prie Dieu qu'un cœur soit prêt à écouter la parole. La révélation de la parole de Dieu est claire. L'arrière-plan de ce chapitre nous parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre 2, l'arrière-plan de ce chapitre 9 nous parle de Jésus comme le fils de l'homme parmi les hommes, dans le mariage à Cana, l'ordonnateur par excellence. L'arrière-plan de ce chapitre que nous avons devant de nous, dans le chapitre 3, il nous parle de Nicodème, ce docteur de la loi juive. Ces juifs qui devaient rencontrer Jésus la nuit, c'est-à-dire en secret, puisqu'il a reconnu qu'il est un docteur venu de Dieu. Dans ce chapitre, il s'appelle l'enseignant divin, le maître divin. L'arrière-plan de ce chapitre qui est devant nous, dans le chapitre 4, de cet évangile, nous parle de la femme samaritaine. La femme qui était bouleversée à beaucoup de problèmes, celle qui a reconnu que certainement tu es un prophète, puisque tu m'as parlé ce que j'ai fait que depuis les temps passés. Il est le gagnant d'âme par excellence. Vous ne serez pas converti à cause de belles paroles. Vous ne serez pas converti à cause d'une bonne prédication. Vous serez converti si le Seigneur, par son esprit, touche ton cœur. Lorsqu'un homme est touché par la parole de Dieu, c'est le gagnant d'âme par excellence lui-même qui fait ce travail. L'arrière-plan de ce livre, de ce chapitre, chapitre 5, nous parle d'un homme paralytique, 38 ans, dans la piscine de Bethesda. Bethesda, qui veut dire la maison de miséricorde. Jésus trouve cette personne. Nous venions de parler ici de la grâce dans nos chansons de louange. On nous parle de la grâce. Jésus, cet homme a trouvé la grâce devant le Seigneur. Il y avait plusieurs malades. Mais quelle compassion, quelle miséricorde. Jésus s'est dirigé devant lui et le guérit. L'arrière-plan de ce chapitre nous parle, dans le chapitre 6, Jésus-Christ, le pain de vie. Ce matin, que le Seigneur soit ton pain de vie ce matin. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je suis convaincu que ce matin, il y a la chaudière à saigner. Ce matin, vous ne sortirez pas de la même manière que vous êtes entré à saigner. Je l'assure au nom de Jésus. Je suis convaincu que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et vous ne sortirez pas tel que vous étiez entré à saigner. Il est celui qui a la compassion de son peuple. Il a dit à ses paralytiques, prends ton lit, marche. L'arrière-plan de ce livre qui se trouve devant nous, ce chapitre, les Jean chapitre 9, verset 1 à 41, nous parle dans le chapitre 7, il nous parle que Jésus est l'eau vive, dit celui qui a soif, qu'il vienne prendre l'eau de la vie. Il parlait du Saint-Esprit. Avez-vous soif ce matin du Saint-Esprit? Avez-vous soif ce matin de la présence de Dieu? Avez-vous soif ce matin de la présence de Dieu? La présence qui brise les chaînes, qui arrête les combats, qui guérit les malades, qui restaure, qui donne la paix au cœur, qui chasse les troubles. Avez-vous soif de cela ce matin? Je suis en train de parler, je suis en train de prier ce matin. Ça ne sera pas la même chose ce matin. Ce matin, vous sortirez de cette salle bénie. Ce matin, vous sortirez de cette salle guérie. Ce matin, vous sortirez de cette salle restaurée. Ce matin, vous sortirez de cette salle dans la joie. L'arrière-plan de ce chapitre, le chapitre 8, il nous parle de Jésus. Jésus-Christ, le roi. C'est lui le Seigneur, c'est le roi, c'est celui qui est là pour défendre ceux qui sont faibles. On amène une femme qui a été attrapée à flagrant délit d'adultère. On le pose devant tout le monde. Jésus ne l'a pas condamné. Ce matin, le Seigneur ne te condamne pas. Ce matin, je dis le Seigneur ne te condamne pas. Il te délivre ce matin. Il te ressort ce matin. Il t'appelle comme enfant. Il t'appelle ma fille. Il t'appelle, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Quelle compassion. Quelle miséricorde. Quelle grâce Jésus donne à chacun de nous ce matin. Et enfin, chapitre 9, Jésus, la lumière du monde. Les disciples posent la question. Mais avant cela, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Jésus vit. Ce n'est pas les disciples qui ont vu. Quelqu'un est avec moi? Ce matin, Jésus va voir. Je précise, la réalité, c'est que toi tu vois, c'est pas la vérité. Mais ce que Dieu voit, c'est la vérité. Écoute ce que la Bible dit. Jésus vit. En passant, un homme est aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui veut dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? N'est-ce pas une bonne question? Une très bonne question, naturellement. Quand quelqu'un est dans la souffrance, quand quelqu'un a des problèmes multiples, c'est que quelqu'un dit des problèmes. Quelqu'un a des problèmes sérieux, des situations compliquées à tout moment, tout le monde a tendance à poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Tu as un endroit où on te dit, mais peut-être Dieu ne te veut pas ici. Si tu es malade, on va te dire, peut-être tu as péché. Regarde bien ta vie. Mais écoute la réponse de Jésus. Avant d'aller à la réponse de Jésus, la Bible dit, Jésus a vu. Et le Seigneur nous voit tel que nous sommes. Jésus te voit ce matin. Il voit tes souffrances. Il voit tes questions, sa réponse. Il voit tes difficultés. Et mon message ce matin se dirige vis-à-vis des deux catégories de personnes. Ceux qui ont la foi à Jésus et qui croient fermement que le Seigneur va faire. Et ceux qui ont aussi la foi, mais ils doutent de la présence de Dieu. Quelqu'un dit, mais le sujet de son message, c'est quoi? Voici le sujet de mon message maintenant. Tu n'as pas dit, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dis avec moi, Dieu n'a pas dit le dernier mot. Excusez-moi, je vous fais parler, c'est juste pour que nous soyons ensemble. Amen, hein?
Amen.
Dis avec moi, Dieu n'a pas dit son dernier mot.
Oui,
Dieu n'a pas dit le dernier mot. Dans l'histoire de l'humanité, dans la situation des dérèglements climatiques, dans tout ce que nous voyons, le dérèglement climatique, la situation politique, tout ce que nous voyons dans le monde, la situation de santé, de sécurité, d'insécurité, tout ce que vous connaissez, Dieu n'a pas dit son dernier mot. À combien plus forte raison dans nos vies? Dans ta vie, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dans ma vie, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il le regarde et il voit cet homme aveugle. Mon premier point, Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Ce que moi je te vois, ce n'est pas la même manière que Dieu te voit. Tu me vois court, Dieu me voit géant. Alléluia.
Amen.
Tu me vois faible, Dieu me voit fort. Souvenez-vous des Gédéons. Dieu le voit autrement. Il dit vaillant. Mais lui-même, il se voyait autre chose. N'est-ce pas ce que souvent ce que nous sommes? Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es.
Amen.
Merci pour cet amen. Tu es ce que tu dis que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent. Tes amis, ta famille, tes collaborateurs, ou je ne sais pas qui. Ce n'est pas ça. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est le ciel qui décide. Ce n'est pas la terre. Jésus a vu l'aveugle, mais écoute la réponse. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que le zèbre de Dieu soit quoi? Manifeste en lui. Ah! Imaginez la personne malade. Les disciples posent la question. Écoute la réponse de Jésus. Ce n'est pas un problème de lui-même. Ce n'est pas ses parents. D'ailleurs, ça ne peut pas être comme ça puisqu'il est né. Ce n'est pas lui qui a péché puisqu'il est né quoi? Aveugle. Les parents non plus. Et Jésus donne la réponse. La réponse est celle-là. Pour que les œuvres de Dieu soient... Je suis en train de prier et d'annoncer à quelqu'un ce matin. Tout ce que tu es en train de traverser, il faut que les œuvres de Dieu se manifestent. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Vous savez, chaque situation où il y a deux personnes qui connaissent, cette situation ne donne pas gloire à Dieu. Je n'ai pas compris. Toutes les situations où il n'y a que deux personnes qui connaissent, ça ne donne pas gloire à Dieu. C'est un peu... Alors, qu'est-ce que Dieu? Dieu s'arrange à trouver une situation où tout le monde connaît, catastrophique. Et lorsque Dieu va intervenir, toutes ses bouches, tous ses yeux, toutes ses oreilles qui vont écouter, qui ont écouté la situation, qui ont vu la situation, toutes les bouches qui ont parlé, tous ces gens vont glorifier Dieu. Vous n'avez pas compris. En Jérusalem, Jésus, on l'a tué à Jérusalem. Il demande à ses disciples de rester à Jérusalem. Ah, pourquoi? Puisque Jésus savait, ils doivent rester là. Et quand il va manifester sa gloire au travers des disciples, ceux qui ont tué Jésus verront. Ils vont glorifier Dieu. Vous n'avez pas compris. Jésus se trouve à la croix. Tout le monde dit, crucifié, crucifié, crucifié. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Un homme retrouve, il le regarde. Celui-ci est certainement le Fils de Dieu. Il a eu la révélation. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Je calme un peu ma voix. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin. Je prie Dieu à moi-même et à toi aussi, mon frère, ma soeur, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Toute situation qui est en train d'environner ta vie, ou toute situation que tu es en train de passer, écoute la parole de Dieu. Amen. Dieu va manifester sa gloire.
Amen, amen, amen.
Écoutez. Lazare est mort. Mais avant la mort de Lazare, il y avait, avant la résurrection de Lazare, il y avait d'autres personnes qui a connu la mort. Jésus les a ressuscités. Et cela, vous connaissez la femme, le fils de la femme de Naïm. Jésus l'a ressuscité. Les pharisiens pouvaient dire qu'il était évanoui. Alors Jésus va attendre 4 jours que Lazare soit dans la tombe. Et quand il va ressusciter Lazare, les pharisiens ne diront plus qu'il était évanoui. Certainement il était mort. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu vas donner à Dieu un autre nom. Comme Marie et Marthe ont donné à Jésus le nom de la résurrection. Ils ont dit, tu es la résurrection et la vie. Puisqu'ils ont certainement, ils ont compris que réellement cet homme n'est pas n'importe qui.
Amen.
Alléluia.
Alléluia.
Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Les disciples voyaient le problème de l'aveuglement. Mais Jésus voyait quoi? La gloire de Dieu. Comme le disciple et tous ceux qui étaient avec Jésus voyait la mort de Lazare. Mais qu'est-ce que Jésus voyait? La gloire de Dieu. Comme est ton problème? Toi, tu vois que c'est fini. Ceux qui savent, savent que c'est fini. Mais je vais te dire qu'il y a la gloire de Dieu. Puisque ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existait. La réalité, j'insiste, n'est pas la vérité. La vérité, ça, c'est Dieu. La réalité, c'est ce que nous voyons, ce que nous pouvons toucher, tout ce que nous pouvons observer. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est Dieu seul qui connaît. Pourquoi tu es malade? Pourquoi cette situation traverse ta vie? Pourquoi? C'est Dieu seul qui connaît. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, comme Dieu connaît, le meilleur endroit, le meilleur plutôt endroit au monde, c'est entre les mains de Dieu. Ton Dieu connaît ta situation. Il vient à ton secours. Il dit, ne crains rien, ne promène pas ton regard inquiet. Je suis ton sauveur. Je viens à ton secours. Amen. Dieu te connaît. Deuxième point de mon message cet après-midi, ou plutôt ce matin. Souvent je vais chez nos frères là-bas pour parler. Souvent c'est l'après-midi. Deuxième point de mon message, c'est ce matin. Dieu agit d'une façon inattendue. Vous avez constaté avec moi que dans la Bible, il y a des gens que Jésus a guéris lorsqu'ils demandent. Mais il y a d'autres, et Jésus les guérissait comme ça. D'une façon inattendue, cet aveugle n'attendait pas l'intervention divine ces jours-là. Peut-être toi, tu es là, tu n'attends pas que le Seigneur intervienne à ta situation. Je suis en train de t'annoncer ce matin. Et je prie Dieu que c'est ce dimanche, que le Seigneur te donne une référence de la solution de ta situation. Pourquoi? Puisque Dieu, il est celui qui a des solutions à des problèmes qui sont parfois arrivés dans la vie des hommes. Il a des solutions à des problèmes inexistants par rapport aux hommes. Qu'avons-nous à craindre avec l'éternel Dieu? Mon frère, ma soeur, tu as choisi la bonne part. Il voit une fourmis noire sous une pierre noire, pendant la nuit noire, dans une chambre noire. C'est Dieu. Il te connaît. Il me connaît. Il nous connaît. Inattendu. Et d'une façon inattendue, c'est cet après-midi, c'est ce matin, Jésus fit de la boue avec sa salive. On y est les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyer. Mais est-ce que ça, ce n'est pas... C'est compliqué. Quelqu'un qui ne voit pas. Mais tu ajoutes encore une couverture de boue. Jésus, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Vous savez, ce que les hommes voient banal, Dieu voit important. Dieu sait ce qu'il fait. Vous savez pourquoi Jésus a fait ça? La salive, c'est l'eau. La boue, c'est quoi? C'est la terre. Il est né quoi? Avec. Il n'avait pas la vision. Alors il fallait quoi faire quoi? Créer la vision. Dans la création, Jésus nous montre que Dieu, quand il a créé l'humanité, il a utilisé l'eau et la terre. Alors, cette personne est née avec, il faut qu'on puisse lui donner la vie. Et la vie vient de l'eau et la terre. Pour que l'homme soit né, l'homme soit sur la terre, il a fallu l'eau et... Ça, peut-être ça m'engage que moi, mais je vous dis ce qui est vrai. La salive et la boue assemblent mélanger, il met. Mais ce qui m'étonne, Jésus lui dit d'aller se laver. Lui, il ne voit pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je sais qu'il était en train de partir. Et je suis sûr que le silhouette n'était pas loin. Alors, il était en train de... Allez, tourne de l'eau. Quand il a fait comme ça, quand la boue est partie, il a vu clair. Il arrive des fois que Dieu nous demande des choses que nous-mêmes nous ne comprenons pas. On trouve ça banal. Mais c'est là que Dieu intervient. Il a dit des choses que l'homme n'a jamais vues. Alléluia. Les choses que l'oreille n'a jamais attendues, les choses qui ne sont pas montées même dans le cœur de l'homme, mais Dieu le révèle à ce qu'il est.
Amen, amen.
N'est-ce pas, nous avons attendu le message le dimanche passé ici, ou l'autre dimanche, sur le vase. J'ai oublié le dimanche, mais un jour ici, on a parlé des vases, des terres, des choses banales que Dieu peut utiliser. N'est-ce pas, nous sommes des choses, des banalités. Même David a dit, je suis comme un ver de terre, mais c'est moi que Dieu utilise. Si ce n'était pas Dieu, mon frère, ma soeur, vous êtes nuls. Mais je vous informe, Dieu sans nous, il reste Dieu. Mais nous sans Dieu, nous sommes nuls. Alléluia. Alors, écoute. Écoute mon dernier point. Mais avant d'aller au dernier point, Dieu qui agit d'une façon inattendue, écoute ce que la Bible dit. Il utilise souvent des moyens inattendus pour accomplir ses desseins. Ésaïe 55, verset 1. Ainsi en est-il de ma parole. Il a utilisé la parole. Et lorsqu'il utilise la parole, la parole est là, mais la parole change la vie d'une personne. Une simple parole. Qui peut s'envoler, puisqu'on dit souvent les paroles s'envolent. Mais ça change la vie d'une personne. Et ici, quand Jésus a parlé à ces messieurs, l'aveugle, on ne donne pas son nom, les non-voyants, il était aveugle, il a mis la boue, il lui demandait d'aller. Jésus voulait voir le premier geste d'obéissance. Il pouvait discuter, mais moi je ne vois pas comment je vais aller. Mais il a obéi. Est-ce que tu peux obéir ce matin?
Amen.
Est-ce que si tu peux obéir? Je ne sais pas ce que Dieu te demande, obéis seulement. Dieu te demande de pardonner. Tu dis non, mais c'est lui qui m'a fait mal. Oh, c'est lui, non, non, ça peut parler comme ça. Obéis seulement. Obéis seulement. Il demande l'obéissance. L'obéissance qui précède la bénédiction. Beaucoup de gens ont été bénis à cause de leur obéissance. Obéis. Écoutez le dernier point de mon message. Avant que je prie avec vous pour 2 minutes. Nous prions ensemble. Dieu termine toujours ce qu'il commence. Il a commencé quelque chose dans ta vie. Il le terminera. Il raconte maintenant cet homme. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a appris qu'on l'avait chassé par les pharisiens. Puisque les pharisiens connaissaient réellement que Jésus était le Christ. Mais par jalousie, ils ne voulaient pas accepter. Et ils leur refusaient que toute personne, ils interdisaient à toute personne de reconnaître Jésus comme le Christ. Sinon, ils seraient chassés du synagogue. Pour un juif être chassé du synagogue, c'est une humiliation. Et Jésus a appris que ce monsieur se trouvait de l'autre côté. Et il a vu ce monsieur. Il pose la question, est-ce que tu connais le Fils de Dieu? Et le monsieur répond, qui est-il, Seigneur, pour que je le connaisse? Et Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. La phrase. C'est moi. Et il a cru. Regardez la progression. Il ne le connaissait pas. Quand vous lisez le passage ici, vous allez trouver, il a dit, un homme qui s'appelle Jésus m'a guéri. Il m'a dit, il a pris la boue et il m'a envoyé, mais il m'a demandé d'aller se laver dans le ici des Siloé. Dans le réservoir des Siloé. Et après, quand il a rencontré Jésus, la chose a changé. Qu'est-ce que Jésus voulait faire? La démarche du Seigneur, c'est de l'amener à ne pas seulement avoir la guérison physique, mais avoir aussi la guérison spirituelle.
Amen.
Mon frère, ma soeur, la guérison physique, oui. Mais ce qui est important, c'est la guérison spirituelle. L'apôtre Paul dit les choses physiques ou visibles sont éphémères, mais les choses invisibles sont éternelles. Ce que tu as dans la spiritualité est plus forte, est plus importante que ce que tu peux avoir dans le physique. Voilà pourquoi nous avons le devoir de nous protéger auprès du bon berger, en écoutant sa parole, puisque c'est là qu'il révolutionne, il relève notre foi. Dieu ne laisse jamais une œuvre inachevée. L'apôtre Paul pouvait dire, celui qui a commencé cette œuvre à moi, l'achèvera. Dieu qui t'a choisi, Dieu qui t'a aimé, jusqu'à la fin de ta vie sur la terre, jusqu'à l'éternité, il sera avec toi. Voilà pourquoi il a donné une image, puisque la Bible, c'est l'ensemble de beaucoup de choses qui sont imagées, symboliques, pour montrer, faire comprendre à l'homme ce qu'il ne peut pas comprendre par le raisonnement humain. Vous allez constater que Jésus demande à cet homme qui était malade, dans le chapitre 5 de Jean, Jésus demande à cet homme, le 38 malade de la piscine de Bethesda, il dit de prendre son lit. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec son lit? Il est guéri, il peut aller laisser le lit. Mais tout simplement, Jésus voulait montrer le symbolique. Que Dieu est comme il est là. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, il est avec toi. Que tu tombes malade ou tu ne tombes pas malade, tu ne tombes pas malade, il est avec toi. À tout moment, le Seigneur est avec toi. De la même manière que cet homme qui était malade, 38 ans malade, tout le monde peut être abandonné, mais son lit ne l'a pas abandonné. Son lit ne l'a pas laissé. Tu fais les gros, les petits besoins sur son lit, le lit est toujours là fidèle. Le lit ne réclame pas. N'est-ce pas, Dieu est fidèle? Dieu est fidèle pour moi. Et je crois pour toi aussi. C'est que Dieu veut de nous. C'est lorsqu'il commence une chose à nous, il achève jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, ce qu'il a connu d'avance, il les a choisis, il les a appelés, il les a glorifiés. Et le but, que nous soyons semblables à son fils bien-aimé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu ne laisse pas les choses inachevées. Notre Dieu. Et alors ce matin, je termine par dire ceci. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je parle au cœur de quelqu'un ce matin. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il arrive des fois, nous attendons des propos, surtout des docteurs. Oh, je vois que... Vous savez qu'il y a des gens. Moi, j'ai attendu des gens. J'ai vu des gens. J'ai accompagné des gens. On a dit, il va mourir dans 3 mois. Mais les 3 mois passés, il est toujours là. Une année passée, il est là. Mon père spirituel, qui allait connaître, était venu à New Delhi. Le docteur lui a dit que sa foi reste 30%. Donc, dans 6 mois, il va mourir. Moi, je ne lui ai pas dit ça. J'ai parlé seulement à maman, c'est-à-dire à son épouse, maman pasteur. On a commencé à prier. Au moment où je vous parle, il est vivant. Bien-aimé, les diagnostics du médecin c'est comme la robe, c'est comme la robe de Joseph. Vous savez, on a dit à Joseph, on a dit à Jacob que Joseph est mort. Or, le sang qui était dans la robe de Joseph, c'était le sang d'un animal. Ce n'était pas le sang de Joseph. C'est pourquoi je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin. Le diagnostic que le médecin a fait sur ta santé, c'est comme le sang qui se trouve dans la robe de Joseph. Ce n'est pas ton sang. Ce n'est pas vrai. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Cette situation, tu auras la solution. Puisque tu pries un Dieu qui a la solution. Cet homme est agréé. Cet homme a retrouvé la vie. Mais à tout cela, j'aimerais dire, il y aura un moment où les gens ne te connaîtront plus. Ils ont commencé à poser des questions à ces messieurs. C'est toi qui étais aveugle? Et non, ce n'est pas lui. Les gens commencent à discuter sur lui. Ah, est-ce que c'est lui? Non, ce n'est pas lui. Non, non, ça ressemble, c'est son jumeau. Oh non, mais je pense que. Non, ce n'est pas lui. Il ressemble. Hein? Mais lui-même, il a dit quoi? C'est moi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Tu diras, c'est moi. Le Seigneur a intervenu dans ma vie. C'était terrible. Quand vous lisez ça à la maison, je vous invite à lire ça à la maison. Vous allez voir la discussion qui a eu. On a appelé même les parents. Les pharisiens voulaient que les parents disent non, notre fils n'était pas aveugle. Il dit non, mais il est là de là, je pouvais le demander, il connaît sa situation, tout ça. Écoute, Psaume 30, verset 6, la Bible dit, les soirs arrivent le pleur, mais le matin, c'est l'allégresse. Et vous savez que nous sommes au soir de l'humanité. Avez-vous constaté qu'il y a des choses qui ne se faisaient pas autrefois que c'est fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la peur lorsque tu marches ici? Non. Personne. Tout le monde est dans l'insécurité. À cause des réseaux sociaux. À cause des choses que nous voyons. Il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui où il y a la sécurité. Il n'y a aucun endroit au monde aujourd'hui où il y a vraiment la sécurité. Mais nous avons la sécurité auprès du Père. Nous avons la sécurité puisque nous sommes entourés. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent l'Éternel. Et il les arrache du danger. N'est-ce pas, nous lisons la Bible, où la Bible dit, celui qui demain, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre des Tout-Puissants. Cet homme a retrouvé la vie, a retrouvé la vision, après tant de souffrances, depuis sa naissance. Toi et moi, peut-être la situation que nous traversons est arrivée peut-être quelques jours avant, ou quelques jours ces derniers temps, ou peut-être après 20 ans, ou je ne sais pas. Mais l'assurance que je te donne ce matin, tout ce qui commence a une fin. Marche avec ça. Tout ce qui commence a une fin. Ta situation n'a pas commencé, il n'y aura pas de fin. Mais si ça a commencé, il y a une fin. Pourquoi? Puisque la Bible dit au commencement Dieu. Lui Dieu, au commencement Dieu. Et comme au commencement Dieu, Dieu est dans les commencements. Et comme il est dans les commencements, il met fin à tout ce qui commence pour qu'il reste lui-même dans les commencements. Crois que l'Éternel est capable. Crois que l'Éternel contrôle toute situation. Et voilà, écoute. L'homme né aveugle est devenu un témoin vivant. Un témoin de la compassion divine, un témoin de l'amour de Dieu, un témoin de la guérison inattendue, un témoin de l'intervention divine. Cet homme est devenu témoin. Il peut témoigner. Et en sortant de cette salle ce matin, que tu témoignes l'amour de Dieu, que ma situation, si ce n'était pas Dieu, ça n'allait pas marcher. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas de problème. Mais si on prend tous les problèmes que nous avons donnés à une seule personne, je ne sais pas qui peut porter garant. Mais il y a quelqu'un. J'ai dit, il y a quelqu'un qui peut porter, qui porte tous les problèmes sur lui. Mais il ne s'écroule pas. Il est toujours sur son trône. Il trouve des solutions à tout problème. Donc, tout problème a une solution auprès de Dieu. Alléluia.
Alléluia.
Alors, prions ensemble.